donc il m'a été de demander. Alors d'abord je remercie donc le comité français Unimark et l'ENSIM pour leur invitation. Et je remercie également Claire Lesage, la présidente du groupe de travail, dont je vais parler dans quelques minutes, donc pour la confiance qu'elle a bien voulu m'accorder en m'autorisant à présenter le travail du groupe. Donc, ça a été présent. Mon intervention a été présentée comme indiquant le contexte un peu de ce dont il va être question tout à l'heure avec Agnès, c'est-à-dire. On n'entend pas bien. C'est mieux comme ça. Il faut que la lumière soit allumée. M'entendez-vous mieux ? Bien, merci. Donc, le contexte en fait de ce qui va être présenté plus tard, mais il ne faut pas oublier que la révision de la norme NFZ 44074 a elle-même un contexte que je vais présenter très vite. Voilà, alors, donc, voilà, j'ai mis un poisson, je pensais que d'autres auraient la même idée, et voilà, non. Donc, j'ai ajouté un petit poisson. Mais le temps m'a manqué pour le mettre sur toutes les diapos, donc il y a juste un petit poisson. Voilà. Donc, remontant donc à un petit peu dans le temps, donc en 19... Donc ça, c'est en fait le contexte du contexte, ce que je vous explique là. L'historique, c'est donc le point de départ que j'ai indiqué, c'est 1974, puisque c'est la première version de l'ISBD. Et alors, en 1980, un certain nombre de, enfin entre 74 et 80, disons, un certain nombre de bibliothécaires responsables de fonds anciens, jugeant que l'ISBD tel qu'il était proposé en 1974 ne prenait pas suffisamment en compte les différentes dimensions spécifiques aux livres anciens, ont créé ce qu'on a appelé l'ISBD-A, A étant pour Antiquarian. En anglais. En fait, l'ISBD-A n'est qu'un des ISBD spécialisés qui ont été créés à cette époque-là. Comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, maintenant, la vision est très différente. Au lieu de créer différents ISBD, au contraire, on les regroupe sous un seul ISBD consolidé. C'est ce qui a été expliqué tout à l'heure. En sorte que finalement, il n'y a plus de justification maintenant à avoir un ISBD spécifique pour le livre ancien. Et pourtant, on va voir. Donc, cet ISBDA a été traduit en français en 1982, mais ça ne convenait pas à tout le monde. C'est un peu une histoire de sécession, en fait, à chaque fois. L'ISBD ne convenait pas à tout le monde, donc on a créé l'ISBDA, mais l'ISBDA en France ne convenait pas à tout le monde, en particulier pour les gens qui voulaient davantage rapprocher le titre et les mentions de responsabilité. Donc on a créé une norme française spécifique, enfin du moins on a voulu créer une norme française spécifique, qui est la NFZ 44061. 074, qui donc date de 1986, mais qui en fait n'a jamais eu d'autre statut que celui de norme expérimentale. Donc quand on parle de révision de la norme NFZ 44074, en fait c'est pas vraiment une révision, puisque la norme n'a jamais eu en fait de statut officiel. Ce qui n'a pas empêché, par ailleurs, d'être fortement utilisé. Alors, entre-temps, il y a d'autres choses qui sont, d'autres événements qui sont arrivés. D'une part, le développement du catalogage informatisé, auquel la norme de 86 faisait très peu référence, et pour cause. D'autre part, le mouvement de rétroconversion de catalogue, qui fait qu'il est quand même plus facile de nos jours de pouvoir faire référence à d'autres catalogues, ou comparer en tout cas les catalogues entre eux. Rappelons que en 1986, le catalogue de la BNF n'était pas du tout rétroconverti, et encore moins la partie ancienne de ce catalogue. Mais également donc le développement de catalogues collectifs, le CCFR, SUDOC, qui quelque part facilite encore la comparaison des notices et des exemplaires. Ce qui a fait évoluer également le contexte, ce sont les travaux d'inventaire rétrospectif menés à la BNF. Alors, j'ai mis mené par la BNF puisque c'est la Bibliothèque nationale de France qui a participé également à la rétroconversion de catalogues de bibliothèques municipales notamment, mais aussi ailleurs, puisqu'il y a eu beaucoup de travaux d'inventaire rétrospectif, de rétroconversion dans les bibliothèques universitaires. dire. Suite à tous ces événements, et puis dans le contexte général de réflexion sur les normes, sur les formats, sur les évolutions des catalogues, une enquête a eu lieu en 2006, pilotée par ce qui était à l'époque la direction du livre et de la lecture, sur l'utilisation des normes dans les bibliothèques cataloguant des fonds anciens. Cette enquête de 2006 a eu un écho assez large, puisque je crois que presque une centaine de bibliothèques a dû répondre à travers la France. Cette enquête montrait que la norme expérimentale de 1986 était largement utilisée, même la plupart des gens ne pensant pas qu'elle avait un caractère expérimental et la considérant véritablement comme une norme à part entière. Mais il apparaissait également qu'elle était incomplète, ou pas adaptée, ou mal adaptée aux outils actuels, parce qu'effectivement, comme je le disais, elle fait très peu référence au catalogage informatisé, ni aux besoins de la recherche, notamment par la faiblesse d'un certain nombre de données, d'accès et de champs. Et donc, une refonte serait nécessaire, ainsi qu'un manuel d'application. Donc, un manuel, il en existait déjà un. Je reviens justement à la situation. Il en existait déjà un qui était le manuel de l'inventaire à la BNF. Pour ceux qui ne viennent pas de la BNF, ce qu'on appelle l'inventaire, c'est un service qui est chargé justement de reprendre les notices, puisque normalement, tous les documents ont été informatisés à l'ouverture de la BNF, c'était l'objectif. Mais ça s'est fait par une rétroconversion qui a été faite avec les moyens dont on pouvait disposer à l'époque. Donc, le service de l'inventaire, qui fait partie de la direction des collections, a pour objectif, entre autres, de reprendre toutes ces notices pour faire des notices validées avec l'ensemble des points d'accès. Parce que si jamais vous consultez le catalogue général de la BNF, vous vous rendrez compte que pour le livre ancien, il y a encore beaucoup de notices qui ne présentent pas du tout de points d'accès. Et voilà. Donc c'était l'occasion de refaire et de reprendre tout cela grâce à un manuel très complet. Donc, le groupe de travail pour lequel je donnerai les détails dans un instant est parti de deux documents. D'une part, la norme expérimentale de 1986 et d'autre part, le manuel de l'inventaire de la BNF. Et le but étant également d'aboutir à deux produits. D'une part, une norme NFZ44074 validée, puisque la précédente ne l'avait pas été. Et d'autre part, un manuel bilingue, Unimark, Intermark. Le choix a été fait de mettre tout ce qui concerne Unimark en rouge et tout ce qui concerne Intermark en bleu. A priori, la norme devrait être diffusée via la FNOR. Quant au manuel, il devrait être mis en ligne sur un site qu'il reste encore à déterminer. Le choix de l'hébergeur n'a pas encore été fait. Donc voilà le groupe symbolisé, donc qui est présidé par Claire Lesage, qui est conservateur à la bibliothèque de l'Arsenal, mais qui au moment où le groupe a été lancé en 2007, puis dans le cas de 2006, travaillait justement à l'inventaire. Et avec donc des représentants de la Bibliothèque nationale de France, de bibliothèques universitaires ou interuniversitaires, notamment ayant des fonds anciens relativement importants, bon, y compris donc l'Institut catholique qui malheureusement n'a pas pu continuer à participer, et puis donc de bibliothèques territoriales avec à la fois la BHVP et quelques bibliothèques municipales de province. Donc ça, c'est l'équipe qui se réunit régulièrement, environ toutes les 6 semaines, depuis 2007. Et ensuite, donc, les autres personnes. Alors, la présence de la BES, avec donc Agnès qui nous a suivis jusqu'en septembre dernier, à peu près. Et puis, donc, un suivi par les... Alors, j'ai mis l'équipe normalisation, donc je me suis trompé, c'est le département... c'est au sein du département de l'information bibliographique et numérique, là, je ne me suis pas trompé, et c'est un service modélisation fonctionnelle. Voilà, donc, avec Françoise Lorège qui a assisté à au moins une réunion, mais qui... J'ai dit au moins une, parce que j'en ai eu une fois, mais je n'étais pas là moi-même, là, à chaque fois. Et qui en tout cas reçoit régulièrement les comptes rendus, non pas les comptes rendus parce qu'on ne fait pas vraiment de compte rendu, mais l'état en fait des documents que l'on prépare. Et puis un deuxième cercle donc qui est régulièrement informé lui aussi de l'avancée des travaux. Alors qui est dans ce deuxième cercle? Il y a à la fois l'essentiel des conservateurs de la réserve et de l'inventaire de l'ABN et un certain nombre de volontaires travaillant en bibliothèque universitaire et en bibliothèque patrimoniale publique. N'importe qui peut demander, bon à moi puisque je suis là, enfin si vous le demandez aujourd'hui je suis là, sinon à Claire Lesage à la BNF, à faire partie du deuxième cercle. Et le deuxième cercle peut réagir aux propositions. Alors les réactions ne sont pas très nombreuses, mais elles sont souvent intéressantes. Donc n'hésitez pas à vous joindre, c'est comme le comité français Unimar qu'on recrute. Alors, je ne vais pas détailler ici les résultats du travail, simplement indiquer un certain nombre de champs d'application, un certain nombre d'éléments qui me paraissent un petit peu plus saillants dans le bref temps qui m'est imparti. D'une part, le champ d'application pour lequel on a abondamment discuté. Donc, il a été décidé d'appliquer cette norme à la tranche 1501-1830. Tout cela pour réserver éventuellement un autre type de modèle de notice aux incunables, d'une part, et d'autre part pour tenir compte du fait que la Révolution, l'Empire, etc. continuent à fonctionner un peu sur le même modèle que celui de l'Ancien Régime, évidemment avec des nuances, hein, mais qu'en tout cas les principaux changements techniques qui ont pour conséquence de transformer la nature des intervenants, je dirais, dans le milieu du livre, et à partir de 1830, davantage différencier ce qui est de l'ordre de l'auteur, de l'éditeur scientifique, de l'éditeur commercial et de l'imprimeur, fonctions qui avant 1830 ne sont pas très claires, et quand on lit par exemple l'ISBD ou le manuel Unimark, les notions d'éditeur, de publisher en anglais, on ne sait pas très bien dans le livre ancien à quoi ça correspond. Donc, en tenant compte de tous ces éléments, on a adopté 1500 et 1830 pour le champ d'application. Autre discussion importante, une zone unique pour titre, mention de responsabilité et d'édition. Au moins, alors là je parle de l'ISBD, hein, bien sûr, pour l'instant. Mais il y a forcément des répercussions dans l'Unimark. Titre et mention de responsabilité étaient déjà plus ou moins liés dans la norme expérimentale de 86, et on a eu l'idée finalement de regrouper également la mention d'édition qui souvent fait corps dans le livre ancien avec le titre et les mentions de responsabilité. Autre point sur lequel on a travaillé et discuté, l'idée d'indiquer l'adresse deux fois finalement. Une pour la transcription, enfin si du moins il y a une adresse sur la ressource évidemment, et en plus une forme normalisée pour l'adresse, puisqu'il y a souvent des changements d'adresse, des réimpressions, pas toujours indiquées, des contrefaçons, toutes ces conséquences qui conduisent à proposer en tout cas deux zones pour l'adresse, sachant que là aussi il y a des répercussions en l'Unimark, bien imaginé. Également un meilleur signalement de l'illustration. Bon, là je parle de l'illustration, mais on a fait la même réflexion pour la reliure, qui sont les particularités d'exemplaires, mais également la volonté de mieux décrire les reliures. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, depuis peu, nous avons fini les zones de l'ISBD. Donc, on s'est occupé de toutes les zones de l'ISBD. Alors, évidemment, pas la zone 0, parce qu'on n'était pas au courant, mais on pourra toujours la rajouter après. Avec leur traduction en marque, c'est-à-dire leur double traduction à la fois en Unimark et en Intermark. Il reste à traiter quand même des éléments importants comme les accès. Ça, maintenant vous êtes tous convaincus si vous n'étiez pas avant que les accès c'est très important. Les cas particuliers, et c'est les cas notamment des ouvrages en plusieurs volumes et également des recueils, pour lesquels d'ailleurs on abandonne le mot factice. Mais recueil tout simplement. Alors on n'abandonne pas complètement parce qu'on distingue les recueils d'éditeurs et les autres recueils. En fait, les recueils factices sont justement ceux qui ne sont pas des recueils d'éditeurs. Enfin, grosso modo. Ouais. et également à parler, chose importante aussi, des règles de transcription ou de non, voilà, de la manière dont on transcrit les choses. Sachant que notre objectif, c'est d'avoir achevé les travaux fin 2010, et c'est valable comme ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que comme on l'affirme aujourd'hui, on va essayer de tenir effectivement les délais. Alors quand je dis travaux achevés fin 2010, ça veut dire que la norme et le manuel pourraient être soumis à validation courant 2011. En fait, c'est l'objectif, c'est celui-là. Sachant qu'il nous reste également à traiter les annexes, puisque les annexes, on ne fait que commencer, mais on s'est déjà réparti entre membres du groupe les définitions. Donc ça commence bien, je dirais, pour avoir nos propres annexes. Voilà. Donc le but étant, que je le rappelle, d'avoir à la fois une norme. Alors c'est vrai qu'on peut se poser aussi la question, faire une norme française, est-ce que ça a du sens après tout ce qu'on nous a expliqué aujourd'hui? On a certainement pensé que oui, donc on l'a fait, mais quelque part ça pose effectivement des questions. Le fait aussi, alors là aussi, on va sûrement être amené à... Alors d'ores et déjà, on a identifié un certain nombre de conséquences sur les formats marques. Par exemple, dans ce que je vous disais, le fait d'avoir une seule zone pour titre, mention de responsabilité et mention d'édition a fait que, alors disons qu'à la BNF, ils ont Intermarque, donc ils peuvent faire évoluer Intermarque presque comme ils veulent, j'exagère un petit peu, mais à peine. Donc ils avaient déjà, en fait, dans leur 245 prévu un dollar A pour le début du titre, la partie qui est liée au classement, enfin qui sert véritablement au classement alphabétique, et un dollar R pour la suite, dans le cas où on met dans une seule zone le titre, la mention de responsabilité et la mention d'édition. Donc on propose de proposer, c'est le cas de lire, la même chose pour l'Unimark, évidemment pas en 245 mais en 200, avec dollar A et dollar R. Mais là, cette fois-ci, c'est des propositions à faire au niveau international, bien sûr, au niveau du PUC, même si c'est la France, en l'occurrence, qui propose. Même chose pour une zone normalisée pour l'adresse. Voilà. Donc pour laisser suffisamment de temps à Agnès, et comme j'ai de toute façon pris à peu près le temps qui m'était imparti, si je regarde l'heure qui apparaît là, je laisse le temps à quelques questions si nécessaire. Donc comme je le disais, le but c'est qu'on ait aussi un manuel avec des éléments généraux qui seraient en noir, en bleu ce qui concerne Intermarque et en rouge ce qui concerne Intermarque. Et on est également en train d'y travailler. Voilà.